Et puis, ici, intervient tout à coup une... On parle d'être en confiance, etc. Et la Torah ramène ici ce pasouk, « Vechi tomru » Et si jamais, et si vous dites, mais qu'est-ce qu'on mangera la septième année? On n'a pas ensemencé, donc il n'y aura rien à manger. Alors, Vetsiviti et Birchati Lachem, Vashana Ashishit, j'ordonnerai ma bracha pour vous, la sixième année, Vasa et Hatvua Lishtosh Hashanim. Et la sixième année, elle produira pour trois ans. Uzratem et Ashana Ashminit. Donc, à la huitième année, vous pourrez de nouveau ensemencer. Vachaltem minatvoa yashan. Et vous mangerez de l'ancienne, donc de la sixième année, de la récolte de la sixième année, ad Ashana Ashit, jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que elle donne, à ce moment-là, vous aurez la nouvelle récolte. Jusque-là, vous mangerez ce qui s'appelle Yashan. Vous mangerez de l'ancienne récolte. Et puis, on pourra, répétition, la terre ne sera pas vendue définitivement, parce que la terre m'appartient à moi, et vous êtes Gerim Vetoshavim, Atemimadi, vous êtes des étrangers, et vous êtes résident Imadi avec moi. Il y aura libération sur toute la terre que vous aurez, qui sera votre terre. Il y aura libération de la terre complète, c'est-à-dire Shemitah et Yovel. Bon. Voilà, c'est une description d'une structure de la société avec une année sabbatique, 7 ans, et une année de Yovel tous les 49 ans. Tous les 50 ans, si vous préférez. Alors, la halakha est que ce din de Yovel, il ne se pratique que quand tout Israël est sur sa terre. En d'autres termes, ça ne s'est jamais pratiqué. Il n'y a jamais eu un moment où tout Israël était sur sa terre. Et si le Yovel ne se pratique pas, alors la Shemitah, elle est pas avec toute sa force. La Shemitah, elle est liée aussi au Yovel. Le Yovel est défini comme étant un certain nombre de Shemitot, mais ils sont liés l'un à l'autre. Et d'une certaine manière, la Shemitah, alors on pratique, aujourd'hui encore, on respecte la Shemitah, mais évidemment, elle n'a pas la force qu'elle aurait si elle s'inscrivait dans le monde du Yovel. Mais le monde du Yovel, c'est un monde, pour l'instant, utopique, puisqu'il n'y a pas eu on n'a pas eu de temps où tout le clan Israël résidait sur sa terre, donc quasiment jamais, donc voilà. Donc c'est très, du coup, toute cette description, etc. Alors bon, pour la Shemitah, ça reste valable, parce que on peut faire une Shemitah des Rabbanan, si vous voulez, mais pour le Yovel, on peut faire un Yovel des Rabbanan, donc il n'y a pas de Yovel, et donc toute cette idée de... Ben, on voit très bien les champs patrimoniaux, etc., ça ne pouvait marcher que si on avait une continuité dans la transmission de ces champs patrimoniaux. Par ça, c'est pas très clair non plus, jusqu'où ça remontait, et puis après, ce champ patrimonial, il va être... quand même partagé entre les héritiers, etc. Bon, même si on ne le vend pas, ça finira par être un confetti, ce champ patrimonial. Alors cette paracha, elle est introduite d'une façon curieuse. On nous dit tout à coup ici que Hachem a parlé à Moshe Behar Sinai. Si vous revenez au premier chapitre, au premier verset. Et alors, la fameuse question, Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinai, qu'est-ce que le sujet Shemitah a à voir avec le Sinai? C'est donc la question que Rashi ramène. Et Rashi précise, Ve alors, pourtant, Kol ha-mitzvot nemru bi-Sinai. On a reçu toutes les mitzvot du Sinai. Donc pourquoi on nous dit que la Shemitah, on l'a reçue du Sinaï. Alors, ça vient nous dire, « Ma Shemitah nemru klaloteha ou pratoteha digdukea mi Sinaï. » De la même manière que la Shemitah, les halakhot de la Shemitah, y compris tous leurs détails, tout ça, ça a été donné au Sinaï. Alors, ça sert de modèle. Afkulan Nehemru Klaloten Dikdukem Isinai. C'est comme ça que c'est enseigné, dit Rashi, dans le Torah de Konim, c'est dans le Midrash Halakha, sur le livre de Vaikra. Et Rashi dit, venir et lire, il me semble, Shekar Pirusha. Rashi dit, il me semble que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Le fils Shelomatsinu Shmitat Karkaot, שנשנית בערבות מואב במשנה תורה אז למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני. D'où est-ce qu'on sait que la Shemitah dans tous ses détails a été enseignée au Sinaï? C'est que il y a un sefer qui s'appelle Sefer Dvarim, qui est le dernier sefer, qui s'appelle Mishneh Torah. D'une certaine manière, il y a la répétition de la Torah. Il y a des choses nouvelles, mais en gros, il y a une répétition. Et il y a eu, à un moment donné, on en parle ici dans ce sefer, il y a eu un moment donné où les Bnei Israël étaient dans ce qu'on appelle Arvot Moab, dans les plaines de Moab. C'est le récit des tribulations des Bnei Israël est donné là-bas. Et donc, durant ces tribulations, il y a eu répétition dans Arvot Moab, il y a eu répétition des lois de la Torah. Et il y en a une, en tout cas, qui n'a pas été répétée, c'est la Shemitah. Donc, puisque la Shemitah n'a pas été répétée là où on aurait pu la répéter et la développer, la Mabnou, on en a déduit que ce n'était pas nécessaire de répéter, parce que tout avait été déjà donné dans son détail au Sinaï. Donc il y a une révélation au Sinaï, ensuite il y a une révélation de Arvot Moab, on verra encore il y en a une autre, mais il y a une révélation à Arvot Moab. Et dans la révélation d'Arvot Moab, il n'y a pas eu mention de la Shemitah. Donc on s'est dit, de là ça nous permet de savoir que si on n'a pas répété, c'est que ce n'était pas nécessaire de répéter. Alors le verset vient, dit Rashi, pour nous dire que c'est vrai que tout a été toujours dit à Moshe Rabbeinu dans la totalité au Sinaï. Et néanmoins, ça a été répété par Arvot Moab. Donc ça veut dire, on a pris un cas où ça n'a pas été répété pour être sûr qu'on a tout dit au Sinaï. Et puis maintenant, on dit qu'il n'y a pas de raison que la Shemitah ait un statut à part. Donc si on a tout dit de la Shemitah au Sinaï, on a tout dit de toutes les mitzvot au Sinaï. Ah, elles sont répétées, ok, il y a eu répétition, ben Arvot Moab. Et il n'y a pas eu répétition de la Shemitah. Voilà comment Rashi explique en fait cette dracha, cette explication que donne le Torah de Kohanim.
Par contre, si toutes les mitzvot
Arbot Moab. Elle a été tout dit, mais elle n'a pas été répétée aussi. Donc, elle n'a pas été répétée pour qu'on puisse savoir que tout a été donné. Si on avait répété là-bas, on n'aurait pas su. On n'aurait pas su du tout que tout a été donné au Sinaï. On aurait dit que ça a été donné, réparti un petit peu au Sinaï et un petit peu à votre mort. Comme Sofer, il fait donc remarquer que il y a là dans ces psukim qu'on a lus quelque chose d'assez énorme. Kadosh Baruch Hu annonce que la sixième année, la terre produira pour 3 ans. Il s'engage en quelque sorte Hachem que la Torah, que la terre produira pour la sixième année pour 3 ans. Donc c'est incroyable que Hachem. Il y a d'autres endroits où Hachem s'engage. Hachem s'engage aussi que lorsque les Bnei Israël iront en pèlerinage à Yerushalayim, où a priori tout le monde va monter à Yerushalayim, les frontières vont être complètement dégarnies, Hachem dit il ne se passera rien, personne ne va vous attaquer. Là aussi, c'est un pari. Il y a une chose très, très étrange. Le Rambam, dans la halakhot de Shmita et Yovel, la halakhot concerne justement cette Shmita. À la fin des halakhot de Shmita Yovel, le Rambam dit une drôle de chose. Je vais vous lire un peu dans la halakhot de... Le Rambam dit « Kol Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi, Mouzarim, ils sont mis en garde, chez Loïn Khalou Be Eretz Knaan, qui n'héritent rien dans le pays de Knaan. Et on sait aussi que quand par exemple il y a la guerre, et quand on prend du butin, eux ils n'ont pas le droit d'en prendre, la tribu de Lévi n'a pas le droit d'en prendre. On a déconnecté complètement la tribu de Lévi, donc aussi les Kohanim qui appartiennent à la tribu de Lévi. On les a déconnectés complètement de tout le rapport matériel, en quelque sorte, avec la terre. Ou de façon générale avec le matériel. Velama lo zacha Levi benachlat eretz Israël ou bebidata imechav. Et pourquoi est-ce que Lévi n'a pas eu part dans le partage de la terre d'Israël? Ils n'ont pas de territoire à eux. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas non plus de part au butin de guerre? Hipne chez Houvdal, parce que la tribu de Lévi a été séparée. La Avod est Hachem pour servir Hachem, ou le Charto, le Horot Drachav. Donc, servir, ça veut dire au Beit HaMikdash, servir en général, et enseigner Drachav HaYesharim, Mishpatav HaTzadikim LaRabim, ils ont là pour tâche d'enseigner les voies droites et les lois justes de la Torah à le Rabim, à tout le monde. Ils sont les enseignants. C'est marqué Yoru Mishpatecha LeYaakov. Le Torah et Israël. C'est de Lévi qu'on parle, ils vont dire les Mishpatim, les lois d'Hachem à Yaakov, donc au peuple juif, à tous les autres, et la Torah à Israël. Pour cette raison, ouvre de l'eau ou midarke haolam. Pour ça, on les a coupés un peu des voies du monde. Lo ochim milchama, que les chars Israël ne font pas la guerre, comme les autres juifs. Velo nochalin, ils n'héritent pas. Velo zochin le atzman bekoach gufan. Et ils ne peuvent rien avoir par eux-mêmes, en quelque sorte. Et lahem chel Hashem. Ils sont l'armée d'Hashem. C'est marqué, berach Hashem chelo. C'est marqué dans le pasouk, Hashem a béni son armée. Vehu baruchu zika lahem. Et lui, Hashem, il leur a dit, c'est moi votre, ani chelkecham nachlatra. C'est moi votre, la, votre part, comme on a une part au partage de la terre, et votre héritage, c'est moi. Et alors, jusque-là, bon, ce sont les classiques. Et là, Rambam dit quelque chose, la dernière halakha. Il dit, velo shevet Lévi bilvat. Il n'y a pas que la tribu de Lévi. Et la kol ish va ish. Mikol ba'e olam, mais tout homme. Parmi toutes les, tous les êtres du monde. Asher nadva rucho oto, que son esprit pousse à une certaine forme de générosité. Vivino madao leibadel, et son intelligence le pousse à se séparer. La mode l'ifne Hashem, pour se tenir devant Hashem, et le servir. La date est Hashem, pour connaître Hashem. Ve oler yachar, kmosha saou a elokim, et de marcher dans les voies droites, comme Hashem l'a créé, qui marche sur les voies d'Hashem. Ou parak me al tsavaro, ol achesh bonot tarabim, asher bikshub ne adam. Et il se libère complètement de tous les comptes et des comptes, etc., que les gens veulent faire. Alors, dit Rambam, Areize nitkadesh kodesh kodashim. Cette personne, elle s'est totalement sanctifiée. Veye Hashem chelko, et sa part, ce sera Hashem. Venachalato, ce sera aussi son héritage. Leolam, ou leolme olamim, pour l'éternité. Veyizkelo baolamaze, davar amaspik lo, kmo shezika lakoanim velalvi. Et il aura dans ce monde-ci de quoi vivre, de la même manière qu'Hachem a assuré aux Kohanim et aux Levim de quoi vivre. C'est ce que David HaMelech dit, Hashem menat chelki vekosi atatu mecha gorali. Donc, David HaMelech, il dit, tu es effectivement ma part, etc. Donc le Rambam ici, il s'engage. C'est lui qui parle. Donc, le Rambam dit, moi je dis. Il garantit qu'il manquera de rien. Il s'appuie sur quoi? Sur rien. C'est lui qui... Là, on est dans les garanties. Puisque Hachem a garanti dans cette paracha la garantie que, bon, manquerait de rien. Alors, le Rambam, c'est comme s'il avait compris que un des points fondamentaux du sujet Shemitah et Yovel, c'est cette confiance qu'on doit avoir en Hachem, qu'en fait, que si on se consacre à Hachem, on manquera de rien. Alors le Radbaz, il dit, j'ai bien regardé de plus près ce que dit Rambam, et si je regarde bien, il dit, « Vizkelo baolam azeh davar Amaspiklo, ça veut dire quoi? Chez Akadosh Baruchu, Zakelo, l'Arviach Baolam, Davar Amaspiklo. Akadosh Baruchu fera qu'il gagne sa vie dans le monde. Il gagnera de quoi vivre. Veloche Yashlichatmo Anatsibo. Mais c'est pas que il va dire au Tsibo, ben vous devez me prendre en charge. Ça, c'est ce que dit le Radbaz, qui est un grand commentaire, donc les deux grands commentaires du Rambam sur Shmita Yovel. Donc c'est assez énorme. Vraiment, a l'air de vouloir dire qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est, il n'y a que l'Elvim qui serait dans cette situation. Mais l'Elvim, Hachem a imposé au clan Israël de nourrir les Elvim et les Kohanim. On leur donne, il y a 24 matanot Kehuna, il y a 24 choses qu'on doit donner, qu'on fait la Shkita, on doit donner une part de la bête au Kohen, etc. Donne Trumot, Maaser, Kohanim, Olvim, etc. Mais là, il vient et il dit, Hachem fera en sorte qu'il est par lui-même. Ça veut dire il va trouver les choses, ou bien on lui apportera, je ne sais pas, quelqu'un va l'aider, va l'intéresser à son affaire, ou un truc comme ça, je ne sais pas. D'une manière ou d'une autre, parce que le Rabbaz, il dit que on peut pas lire dans le Rambam que ça veut dire qu'il sera à la charge, que le Tzibour comprendra qu'un type comme ça, il faut qu'on l'entretienne. Pourquoi? Parce que le Rambam, dans Pirkei Avot, il dit que il faut faire attention de ne pas utiliser la Torah comme une hache comme si c'était, voilà, c'est le moyen, c'est, mon travail, c'est de voir la Torah comme un travail et se faire payer au titre du travail. Alors il dit, il faut donc imaginer qu'Hachem lui sera mezaké, c'est-à-dire que l'Europe fera en sorte que ça lui vienne. Que les gens comprendront et ils vont l'associer. Alors ça, c'est écrit à d'autres endroits dans la Gemara que une des grandes choses qu'on peut faire, c'est justement de faire profiter Talmid Racham de son business, quoi. De l'associer à son business. Ça fait partie de ce qu'on peut faire de bien pour soutenir la Torah. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Alors, donc, si on fait le point, on a donc une mitzvah, enfin, un sujet avec des mitzvot, une mitzvah de Shmita et Yovel, qui est une mitzvah pour l'instant improbable, quoi, si vous voulez, dans la mesure où le Yovel n'étant là que si tout Israël est sur sa terre. Et donc, bon, le Yovel il n'y a pas, et du coup, il n'y a pas vraiment la Shmita dans toute sa gloire, si vous voulez. Donc c'est étonnant, c'est une espèce, on parle d'une mitzvah qui est presque utopique, mais premièrement elle vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Elle vient nous enseigner que au Sinaï on a reçu toutes les mitzvot avec tous les détails, et que Arvot Moav c'était seulement une répétition, et c'était pas un complément, si vous voulez, de choses qui n'auraient pas été dites ou pas été complètement dites. Bon, alors il y aura des problèmes avec ça, mais c'est ce qu'on entend ici. C'est en tout cas comme ça que Rashi a décidé de lire le Torah de Kohanim, l'histoire de Ma'anyan Shmita Etzel Har Sinai. D'abord parce que ça aussi le... ça veut dire que les détails ne sont pas d'un niveau différent que le corps de la chose. Ça veut dire, tu ne veux pas dire, oui, bon, on est dans les détails, c'est... on a arrangé les détails pour arriver au but. Non, les détails sont, eux, sur le même plan que l'idée de base, quoi. Celui qui est poussé à faire ça, tu veux dire? Oui, oui, bien sûr. Non, c'est pas quelqu'un qui décide et qui se dit bon, ben, qui pense qu'il aura, avec tout ça, il aura une BM quand même. Personne ne dit qu'il aura une BM. Il aura Maspic, il aura suffisamment. Pardon? Non, pas, mais on peut pas, il peut pas penser que Akadosh Baruch Hu va me récompenser, si on veut. Il me donnera juste Maspix. Il ne dit pas plus. Il ne dit pas qu'il aura Berevar. Il aurait pu dire. On aurait pu dire, bon, il aura largement, etc. Non, il aura Maspix. Il aura suffisamment. Alors évidemment, on a tout ce sujet des cycles de 7. D'accord, bon, on est dedans maintenant, un cycle de 7 semaines. Après, dans l'Yovel, on compte 7 Shemitot, 7 septaines d'années. Quoi. Et il y a aussi un enseignement qui dit que qui dit que le monde fonctionnera comme ça aussi. Il y a 6 millénaires, le 7 et après, le 6e millénaire, il y a un millénaire qui est de Shabbat, et puis ensuite on recommence. Un nouveau 6 millénaires plus 1, donc 7, et on fait 7 fois 7. Et ce serait ça. Alors, je n'ai pas vu ce qui se passera. Après, qu'est-ce qui se passera après, disons, si on considère, il y aura 49, on compte 49 000 ans, donc après il y a une année de nouveau de Yovel, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en sais rien, je sais pas. Ce que j'ai entendu une fois, c'est que j'ai lu une fois, c'est que nous sommes dans le deuxième cycle. On est dans le deuxième cycle de 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu avant nous 7 000 ans, et maintenant on est à la fin du deuxième cycle de 7 000 ans. Enfin, on est dans la fin des 6 000 du deuxième cycle. Alors, qu'est-ce qu'on peut se demander, évidemment, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement de cycle? Qu'est-ce qui se passe dans le changement de cycle? On peut imaginer qu'on recommence comme ça indéfiniment. Et si on considère qu'on avance, alors, j'ai vu une fois, mais je ne sais plus du tout où, donc je ne sais pas si je l'ai rêvé ou... Il faut prendre ça avec précaution. J'ai vu que la différence entre un cycle et le prochain... entre un cycle et le précédent, c'est que ce qui était la spiritualité du premier devient le matériel du deuxième. Mais on n'a aucune idée de ce qui est demandé, qu'est-ce qu'on demande dans le deuxième. En d'autres termes, il y a une Gemara qui demande qu'est-ce qu'on ferait si sur terre on ne tuait plus? Plus personne ne tuerait. J'en ai compris, il ne faut pas tuer son prochain. Ok, mais la terre, elle dit quand même, dans la Sefirat HaDibrot, c'est quand même marqué l'Otirtsar. C'est marqué tu ne tueras pas. Ben, ça ne sert à rien, puisque maintenant plus personne ne tue. Dans un monde où. Alors la Gemara, elle répond qu'à ce moment-là, le Lotirtsar voudra dire tu ne feras pas blêmir ton prochain en public. Et d'une certaine façon, faire blêmir le prochain en public, d'une certaine façon, c'est le tuer. Et aujourd'hui, déjà aussi, c'est le tuer d'une certaine façon. Mais là-bas, il n'y aura plus que ça. C'est ça qui sera vraiment dans un deuxième cycle, si vous voulez, où on pourrait imaginer que voilà, c'est ce qui était demandé de ne plus tuer, etc. Supposons qu'on a réglé ce problème-là, puisqu'il n'y a plus cette violence, puisque d'une certaine manière, même si ce sont des métaphores, mais il y a quand même le loup et le lion qui sont à côté de ce qui est normalement leur repas quotidien. Ils vont bouffer de l'herbe, donc on va faire des carnivores, des herbivores. Alors on peut imaginer qu'il y aura un processus général où il n'y aura plus de violence, on ne tuera plus. Mais alors la Torah, elle voudra dire, il faudra lire à ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est si nous disons que nous sommes dans le deuxième déjà, alors qu'est-ce que c'était le « tu ne tueras pas » d'avant ? On est censé avoir réglé, et aujourd'hui on nous met en garde contre le meurtre. C'était quoi le meurtre dans la version 1 ? Si dans la version 2, le Lotirtsar, ça concerne le meurtre. Qu'est-ce que c'était avant ? C'est quoi ? C'est cannibalisme ? C'était quoi ? Bon, je ne sais pas. Ça fait partie de la science-fiction, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça pourrait bien être.
Non, mais le cannibalisme, il a même fonctionné dans les 6000 ans.
Non, justement, d'abord, et puis deuxièmement, je ne sais pas si le cannibalisme, c'est pire que de tuer. On tue parce que l'autre, il me dérange, ou parce que j'ai envie. Bon, au moins là-bas, il tuait pour s'attribuer, pour on tuait quelqu'un éventuellement. En plus, je ne suis pas sûr qu'on le tuait vraiment. Peut-être qu'on mangeait la chair humaine, mais peut-être qu'on ne tuait pas. Peut-être que de la même manière que Adam Arishon, il n'avait pas le droit de tuer des animaux pour les manger, mais il pouvait manger de la chair d'animaux tués, qui sont morts naturellement. Ça, on sait, je vous ai dit. C'est marqué qu'il y a des anges qui tournaient un méchoui pour Adam Arishon au Gan Eden. Bon, ben alors, le méchoui, il était fait. C'est pas Adam qui tuait. Ou bien c'est les anges qui enlevaient la vie de. Je sais pas. Alors, là aussi, peut-être que quand on mange pour s'approprier les qualités de l'être qu'on mange, comme nous on mange pour des vitamines et pour ça, eux ils pensaient que les choses étaient dans. Si je mangeais le jarret d'un très bon coureur, je deviendrais bon coureur, etc. Ok, peut-être que c'est moins grave que tuer simplement pour tuer, quoi. Je sais pas. Non, alors je sais pas. Je dis simplement. Ça c'est déjà. Hachem a déjà dit à Caïn, il lui a dit, quand tu tues une personne, tu tues toute sa descendance. Dmei achicha, les sangs de ton frère, on lui dit. prient vers moi. Pourquoi les 100? Parce qu'il y a le sang de tous ceux dont Hevel était porteur. Dans tout ça, tu l'as tué. En tuant une personne, on dit aussi que quand Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien, on dit marqué, il fait une courbe à gauche, il a regardé à gauche et à droite, et Chazal dit qu'il a regardé dans la chaîne des générations dont cet Égyptien était le porteur, en quelque sorte, il a regardé, est-ce que dans cette chaîne des générations, il y aura quelqu'un de valeur? Et si, au bout de, je sais pas, 10 générations, il y avait là quelqu'un de valeur, il n'aurait pas tué cet Égyptien. Pour qu'on ne manque pas d'arriver à laisser vivre cette personne qui était de valeur. Quand on dit qu'il a vu, il n'y avait rien, voyar ki ein ish, ça veut dire, il n'y avait rien à sortir de, rien à tirer de cet Égyptien-là. Alors bon, ça c'est le début de Béra. Je vous laisse avec la question, mais je ne sais pas répondre. Donc. Pardon?
Il y a bien un descendant de cet Égyptien avec le fils de Chomit qui
Oui, mais là on a considéré que c'était pas sa descendance à lui, quoi. Parce que, bon, c'est très difficile, parce que nous on considère qu'il n'y a pas de descendance paternelle dans la halakha, pour les goyim. La mère est certaine, mais les pères sont comme dans le monde animal, bon. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'il a regardé dans sa descendance, si c'est ça. Je ne sais pas. C'est contradictoire.
Mais de toute façon, lui, il a été... exécuté à la paracha qui vient de se terminer, là. C'est pas lui qui a été...
Oui, mais donc il y avait un descendant.
Oui. Enfin bon, c'est pas forcément un descendant intéressant, non.
Peut-être. Peut-être que ça considère... Peut-être que... On a seulement dit qu'il a regardé les descendants, sinon il n'y avait pas regardé les générations. Donc il a regardé, il a vu qu'il n'y avait rien d'intéressant, y compris celui-là. Le fils de Shlomit Bat Divri. Bien. Alors, si on va peut-être regarder maintenant.
C'est pas le Gaon de Vilna qui disait cette histoire du deuxième cycle.
Oui, c'est le Gaon. Je ne sais pas où il le dit, et puis je ne sais pas si j'ai tout vu, si j'ai inventé la partie. Donc je ne vais pas vous vendre tout ça au nom du Gaon, je ne l'ai pas vérifié. Regardez le début de Parshat Bechukotai, la deuxième qu'on ira ce Shabbat. Alors, on avait déjà vu que dans la paracha, dans ce qu'on vient de lire ici, on a vu que Hachem disait que vous ne tromperez pas votre prochain, il ne faut pas le léser, il faudra craindre Hachem. Alors, je vais peut-être ajouter que quand dans les psukim on nous dit l'otanu ish et amito, d'accord, il ne faut pas, chacun doit veiller à ne pas léser son prochain, disons. Veyaret amelokecha, tu craindras ton Dieu. Pourquoi est-ce que c'est marqué ici? Ces interpellations à ces moments-là, hein, elles veulent dire, on parle ici de choses que personne ne saura. Quand on dit tu n'as pas le droit de léser le prochain, ça veut dire dans les pratiques commerciales, même si l'autre il peut pas s'en, tu vas le tromper, il peut pas s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on dit viraita melokera. N'oublie pas que tu agis devant Hachem. Que même si l'autre il s'en rend pas compte, mais il n'empêche que toi, tu as agi maintenant de façon interdite, quoi, devant Hachem. Alors c'est marqué, ben, si t'es maître Kotaï, si vous faites maître Kim, vous gardez mes Mishpatim, et vous faites tout ce qu'il faut faire, alors vous serez Vishavtem ala haaretz lavetach. Vous résiderez sur la terre en. Vous serez en paix, vous n'aurez rien à craindre. Alors, Bechokotai commence de nouveau aussi comme ça. Im Bechokotai telechu, veet mitzvotai tishmeru, vaasitem otam. C'est quasiment le même verset. Et alors, Hachem dit, à ce moment-là, là-bas il dit, vous serez en paix dans votre pays. Et ici il dit, venatati gishmechem beitam. Alors je vous donnerai vos pluies en leur temps. Venatna haaretz là, et du coup la terre pourra vraiment donner ce qu'elle est capable de donner. Ve'etsa sadeh iten pirio, et l'arbre dans les champs donnera son fruit. Et puis ça sera tellement magnifique que ve'isig lachem da'ishet batzir ou batzir yasiget zera. De nouveau, ça veut dire, vous aurez une telle abondance que vous occupez de, disons, de la récolte de blé jusqu'à battre le blé, et ça va durer tellement longtemps que il va falloir s'arrêter de battre le blé pour s'occuper de la vendange. Et puis la vendange, elle sera tellement abondante qu'il faudra aussi s'arrêter de vendanger pour semer, etc. Donc, à la limite, on sera toujours occupé, mais à récolter tellement ce sera bon. Et puis malgré tout, et en plus de ça. Vous mangerez à satiété, donc vous serez rassasié. Et vishatem lavetach bevartochem. Et là aussi, vous serez en sécurité sur votre terre. De nouveau la même chose. Il y aura la paix. Vous pourrez vous coucher sans crainte. Je ferai disparaître les bêtes sauvages. Et les armées ne passeront pas dans votre pays. Et si jamais il y a des gens qui vous attaquent, vous allez les poursuivre et ils vont tomber par le glaive et vous allez cinq d'entre vous vont poursuivre 100 et 100 10 000, etc. Et je ferai de la place pour vous, c'est-à-dire vous fruitifierez, mais je vous ferai fructifier, c'est-à-dire vraisemblablement je veillerai à ce que vous ayez des enfants, etc. Et j'accomplirai mon alliance, mon brit, avec vous. Et de nouveau, vous allez manger de la vieille récolte, et vous aurez de la vieille récolte jusqu'au moment où vous aurez la nouvelle récolte, etc. Et je résiderai parmi vous, et je ne vous vomirai pas. Je ne suis pas dégoûté par vous. Et je résiderai, je serai visible parmi vous. Je serai votre Elohim. Et vous serez mon peuple. Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etchem, est la mention de la sortie d'Égypte. Et voilà, et je vous ai amené de nouveau à la liberté, à la tête haute, quoi. Puis après, sinon. Alors, de nouveau, on a un problème, parce que on ne sait pas comment lire le début de cette paracha. Rashi dit, il ramène un enseignement toujours des mêmes, le même Torah de Kohanim. Yachol ze kiyum ha-mitzvot. C'est marqué, im bechukotai telechu. Si vous marchez, si vous allez selon mes décrets, si vous allez selon mes décrets, Est-ce que ça veut dire vous allez accomplir les mitzvot? Mais si c'est ça, mais c'est marqué juste après, v'et mitzvotai k'tom tishmeru. Après c'est marqué vous garderez mes mitzvot. Donc ça ne peut pas être que Imbechokotai veut déjà dire ce qui est dit explicitement dans trois mots plus loin. Donc kiyum mitzvot, amour. Alors, comment est-ce que je peux faire tenir ce verset, Imbechokotai telechu, shetiyu amelim batorah. Si vous êtes, à condition, si vous voulez, que vous soyez amelim batorah. Amelim batorah, ça veut dire que vous étudierez avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de constance, etc. Vous allez vraiment travailler, quoi. La question, c'est où est-ce qu'on voit ça dans le texte? Où est-ce qu'on voit dans Yim Bechokotai Telech ou que Shetiyu Amelim Batorah? Le Rabbin Mo qui ramène. Le Or HaChaim, il amène 42 raisonnements différents pour démontrer comment on peut, à partir de ce verset, dire qu'il s'agit d'une étude assidue de la Torah. Le Zohar, il résout le problème différemment. Le Zohar, il dit, le début de la phrase, Imbechukotai Telechu, ça concerne la Torah orale. Torah Shebalpe. C'est ça qui, en fait, mène d'une certaine manière à la perfection. Alors du coup, on ne peut pas dire que Vaasitem, ça voudrait dire que vous allez pratiquer. Mais vous le ferez, c'est-à-dire, vous ferez fidèlement le nom d'Hachem. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, faire le nom d'Hachem? C'est-à-dire, le nom d'Hachem, ça voudrait dire ici que ce sont les hommes qui font le nom d'Hachem. Par leur conduite, ils font le nom ou le renom d'Hachem, si vous voulez. Ça veut dire que il faut se demander si tout ce qu'on fait contribue à la gloire divine, en fait. Avoir un nom, c'est la gloire qui est attachée à ce nom. Le Ramban, il dit, à qui il y a toutes sortes de promesses, n'est-ce pas? Ces promesses qui sont dites ici, si vous gardez, etc. Alors, le Ramban dit, voilà, il y a des gens qui font les mitzvot et qui les font pour en tirer une récompense. Alors pour cela, dit Ramban, il y a beaucoup de bienfaits qui sont prévus dans ce monde. Pour ceux qui les accomplissent en vue d'une récompense dans le monde futur, leur âme trouvera paix et repos. Ici, on parle de ceux qui font les mitzvot sans en attendre de récompense. Et donc, c'est tout ce qui est dit ici dans ce chapitre, toutes ces brachot et tout, ne concerne seulement ceux qui font, qui accomplissent la parole d'Hachem et qui ne se préoccupent pas du tout de quoi que ce soit d'autre. Ils font la parole d'Hachem parce que c'est la parole d'Hachem. Ils veulent rien en gagner. Alors le Ramban dit, ceux-là, ceux qui font la parole d'Hachem, ça c'est encore le top niveau, ils veulent aucun profit matériel et tout, ceux-là ils ressusciteront pour une nouvelle existence, et ils donnent les exemples de Hanokh et de Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, ils donnent l'exemple de deux personnages qui ne sont pas morts, qui sont entrés dans le monde supérieur, si on veut, qui sont entrés vivants dans les mondes supérieurs. C'est ça leur nouvelle existence, probablement. Ils ont la suite de leur existence, vu la façon dont ils ont vécu, la façon dont ils ont fait les mitzvot, ça leur a donné accès à une existence à un autre niveau, celle dans laquelle ils sont entrés vivants, en quelque sorte. Ils ne sont pas morts. Pardon?
Pourquoi Isha est mort?
Non, parce que Isha, il n'a pas fait de faute. Mais on ne sait pas comment il servait Hachem.
Alors, cet état où il rentre vivant dans le monde futur, ça veut dire qu'il pourrait encore agir dans le monde présent? C'est-à-dire qu'il pourrait encore développer.
Non, eux, ils sont partis, là. C'est terminé. Eux, ils ont fini de faire ce qu'ils pouvaient faire dans ce monde-ci, et donc ils ont accès à un monde différent, un monde supérieur, mais qui apparaît comme la... On n'a pas besoin d'en passer par la mort pour accéder à un Olam Abba qui viendrait post-mortem, d'accord? C'est comme si leur vie devenait tellement extraordinaire, si on veut, qu'elle ne pouvait presque pas se vivre dans ce monde-ci. C'est un peu... Quand, vous vous souvenez peut-être le Silat Yesharim, quand il décrit, au tout début, il dit, Akadosh Baruch Hu a créé un monde de jouissance. Le monde, c'est un monde pour la jouissance. Seulement, un monde d'une jouissance complète, c'est un monde où on n'a rien à faire d'autre qu'à jouir. Et c'est la raison pour laquelle il a séparé le monde de la jouissance, qui est Olam Haba, du monde dans lequel on travaille pour accéder à cette jouissance. Et maintenant, et du coup, parce que le monde matériel, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette jouissance dans ce monde-ci? Non. Parce que le monde matériel ne permet pas la totale jouissance. La matérialité nous empêche d'accéder au top du top, si on veut, la jouissance. La question c'est, mais pourquoi il faut travailler pour accéder à la jouissance? Puisqu'il a créé le monde pour la jouissance, alors qu'il nous mette directement dans le monde de la jouissance. Mais là, d'un autre côté, la jouissance n'est, ça on en a déjà parlé souvent, la jouissance n'est pas complète si cette jouissance, elle est octroyée. On entre dans le problème qui s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte. On en a déjà parlé souvent. C'est pour ça qu'il faut travailler pour que la jouissance apparaisse comme un produit de notre travail. Quelque part, ce n'est pas octroyé, c'est comme un salaire. Un salaire, voilà, je l'ai gagné. Ce n'est pas quelqu'un qui veut bien me donner mon salaire. C'est pas un don. C'est lui gagner. Alors, la Torah, quand elle veut nous dire la plus grande bracha, c'est quoi? C'est la pluie en son temps. La Gemara dit que c'est la récompense suprême. Le Recanati, il dit, c'est un Kubal italien, il dit, c'est pas une cause surnaturelle, comme les autres brachot. C'est un phénomène qui est lié simplement à l'obéissance. C'est comme si on disait, si on ne fait pas de bêtises, il n'y a pas de raison que les pluies tombent autrement qu'en leur temps. Si les pluies tombent autrement qu'en leur temps, c'est anormal. On dira, non, mais alors si c'est comme ça, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas obéi. Le Emek d'Avar, effectivement, il pense comme ça aussi. Mais le Ramban, il ne pense pas comme ça. Le Ramban, il dit que ça fait partie des Nissim Nistarim, des miracles cachés, dont la Torah est pleine, en fait. Alors, ils disent que tout ça, ça concerne seulement les individus. Pour le klal, les miracles sont toujours surnaturels. Alors, c'est intéressant. Dans le pasouk, on dit, vous allez manger votre pain, la sova, à satiété. Bon, il veut dire que dans la collectivité, c'est toujours surnaturel. Pour les individus, des fois, c'est pas obligatoirement surnaturel. Pour le Rambam, ça l'est, mais pour les autres, c'est la suite de l'obéissance. Toute la discussion, elle est seulement sur les individus. Pas de discussion sur le collectif, sur le clan. Alors ici, on dit, vous allez manger effectivement à satiété. Regardez Rashi. Rashi dit, Vachaltem lachmechem la sova. Ochel kim'a. Vumid barech bemeav. Rashi, la société, nous on pense, ben oui, il y a abondance, donc je pourrais manger. Rashi dit pas comme ça. Parce que tu manges très peu. Mais dans tes entrailles, ça se multiplie. C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin de consommer beaucoup, donc tu n'auras pas besoin de récolter beaucoup, etc. La vraie bracha, c'est que tu manges peu et néanmoins tu es rassasié. Tu peux aussi imaginer que, effectivement, en mangeant peu et en étant rassasié, on n'a pas les lourdeurs du corps. Les lourdeurs, elles ne viennent pas de la satiété, elles viennent de ce qu'on a trop mangé. Donc, quelque part, c'est moins matériel si la bracha, elle se fait à l'intérieur du corps. Tu manges un peu et tu es rassasié. C'est ce qui est important de voir que c'est comme ça la satiété. C'est pas d'en avoir des tonnes. Mais comme en même temps on dit qu'il y aura une abondance de récolte, alors ils disent que l'abondance qui est dans la première partie du Passouk, la promesse, elle est que les autres pays n'auront pas cette abondance, et du coup Israël, le mot qui dit par sympathie, leur vendra une telle quantité de nourriture qu'il ne lui restera que peu à manger pour ses propres habitants, et ce peu leur suffira. C'est curieux. C'est-à-dire, on met les Bnei Israël dans un état où eux, ils ont l'abondance, et à côté, il y a la famine, et eux, ils commencent, avant de se servir soi-même, de mettre de côté ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes, ils donneraient aux autres pour eux. Et du coup, il n'en reste pas assez. Pas assez pour avoir. Du coup, c'est ça le. Bon, avec ce peu qui va rester, ils auront assez, ils sont complètement rassasiés. C'est-à-dire, c'est pas un choix de manger peu ici. C'est-à-dire, on le dit comme ça, hein, c'est la résultante de leur souci pour les autres. Ils apparaîtront comme, il faut aussi que le clan apparaisse, comme de nouveau les nourriciers, quoi. C'est les Bnei Israël qui sont de nouveau le Yosef du monde, cette fois-ci, et plus seulement de l'Égypte. Mais, il faut ensuite, il faut dire qu'ils sont tellement bien avec Hachem, tellement la vétar, que le fait qu'il y en ait peu, ça ne les dérange pas. On ne dit pas qu'ils n'ont pas de soucis. Alors, si on revient sur ce qu'on a vu dans Béhar, dans le passage où c'est marqué, et si tu demandes, mais qu'est-ce qu'on va manger la septième année, parce qu'on n'a pas semé, etc. Alors, les commentaires sont que, en réalité, le problème c'est comme ça. Si vous lisez le texte, vous avez l'impression que pourquoi est-ce que la sixième année, il y en a beaucoup? Parce que vous avez demandé. Et si on n'avait pas demandé, alors on aurait crevé de faim. Donc en réalité, il faut lire que si vous aviez réellement confiance en moi, vous n'aurez rien besoin de demander. D'accord? C'est sûr qu'on aura ce dont on a besoin. Mais si c'est trop difficile, quand tu dois faire les calculs, tu te dis quand même, jusqu'à la neuvième année, on n'aura pas à manger. Alors ça, je te réponds. Je te dis que, Betsiviti et Birchati, j'enverrai ma bénédiction, et la sixième année donnera suffisamment pour les. Pour aller jusqu'à la neuvième. Ça veut dire que tu verras l'abondance de la sixième année. Ça veut dire que si tu n'avais pas demandé, tu n'aurais peut-être pas vu de l'abondance. Mais ça aurait suffi quand même. Et ça aurait suffi sur le mode de ce qu'on vient de voir ici. Il va en rester très peu. Ok, on n'a pas besoin de plus. Parce que Hachem, il n'a pas besoin qu'on s'en piffre. Il suffit qu'il donne la bracha, non pas avec civilité et birchati, que la sixième année donnera beaucoup, avec civilité et birchati sans que vous ne demandiez rien du tout, pour que, en vous, ce que le peu que vous allez manger va être béni, c'est-à-dire va être amplifié, et vous serez complètement rassasié. Donc, quelque part, il y aurait un double statut, selon que vous allez demander ou que vous ne demandez pas. Si vous ne demandez pas, alors on ne verra pas, on n'a pas besoin de voir, on est en confiance. Alors, c'est-à-dire que on est comme un enfant qui est au sein de sa mère, il n'a pas besoin d'avoir des moyens de savoir alors combien elle va mettre, de combien elle est encore porteuse, est-ce que j'aurai assez demain, etc. La confiance. Donc les deux parties, c'est intéressant parce que on part sur quelque chose de presque totalement incompréhensible. On a l'impression qu'on ne parle pas du sujet, quoi. On est parti de Barsina et là. Et de quoi on parle ici? On parle d'être en paix, d'être bêta. On est en paix, en sécurité auprès de la chaîne. Voilà, dans Burkotai, là, quelque chose, parce que si on voit que les pluies tombent vraiment au bon moment, bon, ça veut dire qu'on. Il ne va pas pleuvoir à contre-temps, il n'y aura pas d'inondation, il va pleuvoir à un moment donné, il y aura trop d'eau, la terre sera gorgée, elle ne pourra pas du tout emmagasiner toute cette eau. Donc ça va faire des dégâts. Non, chaque goutte arrivera, là elle doit arriver pour faire pousser les choses qui doivent, comme elles doivent pousser avec le. Exactement de la bonne manière. Voilà. On s'arrête là. Parce que c'est ça la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Quand tu fais confiance et que tu vois que tu as eu raison de faire confiance, alors tu fais encore plus confiance, non? Donc en quelque sorte, si vous faites confiance, alors Hachem nous mettra dans une situation où on pourra faire confiance et il va nous donner des raisons de pouvoir faire de plus en plus confiance. Donc on sera de plus en plus près, comme on disait dans les choses, de plus en plus près d'Hachem.